Tu vas au boulot, tu marches seule.
Histoire de femme.
À la hauteur du H&M. Y'a un type qui gueule. Eh, salut, bonne meuf, t'es vraiment très charmante. Tu sais, je te mangerai pour le 4 heures. T'es si appétissante, je te ferai pas la bise, mais si tu veux, on peut baiser. Moi, les petites meufs comme toi, j'en ferai qu'une bouchée. Ben pourquoi tu marches plus vite? Je t'ai pas agressé, je t'ai même fait des compliments. Tu pourrais au moins t'arrêter. Comment ça, t'as pas le temps? Mais t'es pas célibataire, tu sais. Moi, je suis pas jaloux, viens dans mon lit, ça va te plaire. S'il faut arrêter de te plaindre, là, tu l'as bien cherché. T'as une jupe tellement courte, même pas besoin de la soulever. Les filles comme toi, c'est dangereux. Pire que le mal incarné. Dites-moi que l'on accuse de me comporter en chimpanzé.
Graffiti, 19h-20h. Histoire de femme.
Bonsoir à toutes et à tous. C'est avec plaisir que nous vous accueillons après la pause estivale pour votre émission féministe. Attention, j'ai bien dit féministe, mais pas misandre, bien entendu. Nous recevons ce soir, comme chaque mois, un ou une invitée que vous découvrirez dans quelques minutes et retrouverez tout au long de l'émission. Art et engagement, art et émotion, art et matériaux, art pour dire, pour montrer, pour ressentir. Diverses chroniques ponctueront les échanges avec notre invitée. Nous écouterons Annie, toute nouvelle chroniqueuse, à 19h20-25, puis à 20h. Nous terminerons l'émission avec des extraits de lecture proposés par le collectif Nous Toutes 85. Tout au long de l'émission, il y aura également des pauses musicales dont Alexandra va nous dire quelques mots dès à présent. Bonsoir Alex.
Oui, bonsoir. Quelques mots sur les morceaux que je vais passer. Ça va toujours rester dans la thématique histoire de femmes.
Bien sûr.
Je vous réserve quelques surprises.
Merci Alex. Annie, bonsoir.
Bonsoir. Ravie de rejoindre l'équipe, merci de votre accueil.
Bienvenue à toi.
Bienvenue. Merci. Donc dans les chroniques, il sera d'abord question de justice, avec un point sur la situation des femmes afghanes, dans un premier temps, et quelques brèves, dans un second. Ensuite, il sera question du sexisme, qui s'est malheureusement invité aux JO de Paris. Ce sont des boxeuses qui en ont le plus souffert, mais d'autres athlètes ont également connu des déconvenues disproportionnées.
Merci Annie.
Oui.
Bien, alors nous allons commencer avec notre invitée. Bonsoir.
Bonsoir.
Nello, ça y est, j'ai dit ton nom.
Oui.
Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire pour te présenter? Qui es-tu?
Difficile. Je suis sculpteur.
Mm-hmm.
Je travaille surtout... Mais toutes mes créations dépendent d'un déclic, d'une émotion. Sans ça, il n'y a pas de sculpteur.
Et tu viens d'où?
Je suis aux Essarts.
Donc tu es vendéen?
Pas d'origine, mais tout comme.
Tu es en Vendée depuis longtemps?
Depuis 13 ans.
Oui, donc on peut dire que tu es quasi vendéen.
Je suis vendéen.
Tu es vendéen, bien sûr. Et depuis quand tu es sculpteur?
Depuis 25 ans.
25 ans,
oui.
D'accord. Donc, c'est quelque chose que tu faisais plus jeune et qui est devenu ton métier, ou comment ça s'est passé?
Pas du tout. Avant, j'étais dans la mécanique et il y a eu un licenciement économique dans l'entreprise où j'étais. Mm-hmm. Et à ce moment-là, j'ai décidé de changer carrément d'optique. Donc, je me suis orienté vers le bois parce que j'étais passionné par le bois. Puis c'est là que j'ai découvert la sculpture.
Et donc, tu as commencé par des sculptures en bois ou au départ, tu as utilisé d'autres matériaux?
Au départ que le bois.
D'accord.
J'étais pas trop pour les autres matières, je trouvais ça froid, pas terrible. Et puis, au fur et à mesure du temps, on évolue.
Mm-hmm.
Et puis, on touche à toutes les matières.
D'accord. Est-ce que tu travailles plutôt en équipe, plutôt seul?
Seul, ouais.
Pourquoi?
Parce que c'est des sculptures qui sortent de mon âme. Donc, c'est pas facile à partager au travail avec quelqu'un d'autre, à part ma compagne.
Et tes sculptures, on peut les voir en général, tes sculptures, elles sont chez toi,
elles sont
exposées
dans
certains endroits.
Ouais, à l'atelier ou sur des expos un peu partout, quoi, ça dépend. Quoi.
Et tu, dans le cadre de, justement, quand tu veux montrer tes sculptures pour faire une expo, tu vas où?
Là où il y a des salons. Ou dans les lieux où on m'invite.
D'accord.
Donc ça peut être un peu partout. Depuis le Covid, je me suis un petit peu calmé, mais avant, j'étais un peu partout en Europe.
Ah oui ? Dans quel pays, par exemple ?
L'Italie, l'Espagne. J'ai fait l'Italie, l'Espagne. Que j'ai fait, la Suisse, où je vais tous les ans. Une fois au Japon. La Norvège. Je ne sais plus.
D'accord. Et l'accueil, as-tu noté une différence d'accueil selon, par exemple, quand tu parles
selon
de pays étrangers,
oui. Selon les pays, oui.
Tu peux nous en dire un petit peu plus ? Qu'est-ce que tu as remarqué ? Par exemple, le Japon, c'est une culture très différente de l'Europe.
Le Japon, je n'ai pas pu y aller. Il y a combien de pièces qui sont allées ?
D'accord.
C'était pas possible. Donc, c'est un grand regret, mais peut-être qu'un jour, ça, j'y retournerai. J'irai, du moins.
Oui, bien sûr. Mais je te le souhaite.
Oui.
Je te le souhaite.
Autrement, en tant qu'artiste français, on est très bien accueillis à l'étranger.
Mm-hmm.
Très, très bien même.
Et donc, des échanges avec d'autres artistes également à l'étranger ?
Oui. Il y a eu beaucoup d'échanges, des propositions pour aller encore plus loin.
Un enrichissement, donc, tu dirais, pour toi ?
Pour avancer, oui. Oui. Parce que il y a quelques années, je passais mon temps sur les routes. Il faut dire ce qui est, quoi. Je passais très peu de temps à l'atelier. Donc, une connaissance sur un salon, ça m'emmenait sur un autre salon, puis ainsi de suite, quoi. Ça m'a permis de faire des très, très, très beaux salons, quoi, comme Monaco. Le salon Monaco, une expo privée, la Villa Oxygène à Cannes, c'est quand même un gros privilège, enfin des belles expos.
Des belles expos, ouais. il y a du monde, il y a des questions, il y a...
Des gens très intéressés.
D'accord, donc ouais. Un vrai qui relationnel.
Oui, qui apprécie beaucoup le travail des artistes.
Eh bien, tu nous as choisi une chanson. Pour ce soir. Enfin non, je parlais à Nello. Et on va peut-être l'écouter, puis en parler après ou...
Oui, je vous passe Close Nomi pour The Cold Song.
I can stay.
Un très beau morceau.
Oui, donc c'est une reprise d'un opéra d'Henri Purcell, interprété par Klaus Nomi.
Oui, alors ça me fait revenir des années en arrière, parce que Klaus Nomi, c'est pas récent.
Pas du tout, non.
Pourquoi est-ce que tu as choisi ce morceau, Nello?
Comment expliquer une émotion?
Ouais.
C'est ce que j'écoute ce morceau-là. Pas que celui-là de lui, mais tous en général, quoi.
D'accord. Ça date de quand, Klaus Nomi? C'était, moi, j'ai l'impression que j'étais
c'est
ado.
C'est les années 80.
Ouais, années ouais. 80, ouais.
C'est ça, mais j'étais donc ado.
C'est l'un des premiers artistes à être mort du sida aussi, quoi.
Ah oui. Ne ris pas, Alex, hein, parce que j'ai dit que j'étais ado dans les années 80. Merci de ne pas rire. Je précise que dans l'équipe de l'émission, je suis, oui, la plus vieille. Mais la plus vieille, mais j'ai 15 ans. Tous les autres sont des bébés, en fait. Alors, Nello, pourquoi avoir accepté d'être l'invité d'une émission féministe?
Alors, je ne sais pas trop quoi répondre là, mais...
Est-ce que tu n'as pas eu la moindre hésitation?
Non, parce que je ne comprends pas la période à laquelle on vit, qui est un content de... Je ne sais pas quel mot mettre sur ces actes-là, quoi. Mais c'est admissible, quoi. On n'est pas au Moyen-Âge, quand même.
Ouais. On ne devrait pas.
On ne devrait pas, non.
Mais les choses n'évoluent pas vraiment, quoi.
Non, ça va pas vite, non.
Et puis, il y a même des choses qui évoluent dans le mauvais sens.
Ouais. Hein.
Ouais. Et, alors, le féminisme, pour toi, qu'est-ce que ça... Alors, tu viens d'en parler, bien sûr, en partie, sans prononcer le mot, mais qu'est-ce que tu mets derrière ce mot, féminisme
Je sais pas.
D'accord. En tout cas, tu es venu sans la moindre hésitation,
oui.
Et nous sommes ravis de t'accueillir. Et j'étais très contente que tu répondes oui tout de suite. Pourquoi es-tu là ce soir, Nello? Pas seulement pour nous faire écouter du Klaus Nomi.
Ah ben si. Il y en a pas d'autres à passer. Non, actuellement je travaille sur une sculpture monumentale. Où je suis en train de le modeler 120 visages de femmes qui vont être accrochées à une flamme monumentale. Il y en a deux que je vais mouler par rapport à des photos, parce que c'est des femmes qui ont été tuées par leur conjoint. Et donc ces 122 visages vont être accrochés à une flamme qui fait en moyenne 2,50 m de haut. Pour essayer de faire avancer les choses par rapport à tous ces meurtres qu'il y a, quoi. C'est les meurtres, il n'y a pas d'autre mot, quoi.
Oui. Et cette sculpture, hein, tu dis monumentale, je crois que c'est le terme que tu as utilisé. Alors, concrètement, ça veut dire à peu près... Ça veut dire combien?
2,50 m de haut.
2,50 m de haut.
Oui.
OK. Et Alors, l'idée t'est venue comment?
L'idée m'est venue il y a 5 ans. Au départ, c'était pas tout à fait ce que je voulais faire à cette époque-là. C'était par rapport à ma mère, qui a toujours été battue et violée par mon père pendant plus de 25 ans. Et il y a 5 ans, j'ai dit à ma mère que j'allais faire une sculpture sur elle par rapport à ça. Et j'ai jamais eu le temps. Et là que je prends le temps de le faire, cette sculpture, elle a évolué.
Et donc, voilà, il y a eu un temps d'incubation dans ta tête, j'imagine, avant de passer
au concret. Oui, comme tout, oui.
Donc, lié à une histoire familiale.
Au départ, oui.
Voilà. Et Et est-ce qu'entre temps, est-ce que tu travailles plusieurs sculptures en même temps?
Oui, oui, plusieurs, oui.
D'accord. Ça, c'est, c'est des journées de combien d'heures
C'est des journées de passion.
Ouais. Tout donc simplement. On ne compte pas ses heures dans
non,
ces cas-là?
On ne compte pas.
Ouais. Tu as un atelier chez toi?
Oui, un grand atelier, oui.
D'accord. Ok.
Donc, ça me permet de. Il y a des moments où la tête ne suit plus, où on ne voit plus la pièce comme on doit la voir. Donc, j'arrête, je prends une autre sculpture, puis ainsi de suite.
D'accord. Ça, c'est intéressant. Et il faudrait que. Ça, ils se visitent, ton atelier?
On peut le visiter, oui. À partir du début de l'année. Parce que pour l'instant, c'est les travaux.
Alors, tu es où
Aux Essarts.
Oui, tu l'as dit tout à l'heure, pardon. Oui, ok. Donc, ok, ça c'est intéressant. On pourrait peut-être aller faire un tour en équipe pour voir.
En fin d'année, on pourra voir cette sculpture-là qui s'appellera 122. Mm-hmm. Et puis, il y aura deux autres sculptures qui sont en cours ici, sur, pareil, deux sculptures monumentales. Deux femmes de 2,50 m de haut. Toute nue, avec un enfant au milieu, et à côté de ces deux femmes-là, deux hommes, tout nus, avec un enfant au milieu.
Très beau message.
Ce que je voulais dire, c'est que, pour moi, l'amour ne se choisit pas, elle se vit. Et qu'il y en a marre qu'on dise, qu'on passe dans la rue, « Oh, t'as vu le PD ? Oh, t'as vu les... Oh, mais c'est pas là, chacun fait ce qu'il veut, quoi. »
Évidemment. Mais c'est pas une évidence pour tout le monde.
Ça devrait.
Ouais, on est d'accord avec toi, n'est-ce pas, évidemment.
Moi, des fois, j'ai envie de me révolter. Il n'y a pas trop longtemps, il y avait des gens dans la rue, je passais, et puis il y avait deux mecs qui passaient, qui se tenaient la main, ils se tenaient la main, point, quoi. Ils ont le droit de vivre aussi, quoi. Et puis les gens qui étaient à côté, oh, encore des pédés. J'aurais voulu foutre une paire de claques, mais bon.
T'as pas osé. Alors justement, donc la sculpture du moment, celle dont tu m'as parlé,
la 122,
voilà. Ouais. Malheureusement, donc porte sur les féminicides. Alors je voulais faire un petit point. Actuellement, nous sommes depuis le 1er janvier 2024 à 96 féminicides. Alors il se peut qu'il y en ait un petit peu plus parce que s'il y en a eu un hier ou avant-hier, il n'est pas encore répertorié comme tel.
Ouais, c'est ce qui m'est arrivé à moi, oui. Parce qu'au moment où j'ai décidé de faire la sculpture, j'avais été voir sur le site et ils avaient marqué 122. Et après, le chiffre a changé.
Oui, c'est ça.
Mais je reste à 122, quoi.
Oui, ok.
Et puis il y a trois sites. Il y en a un qui commence à 99 ou 97, je ne sais plus, et l'autre à 145.
Oui,
je garde le chiffre où la sculpture a démarré.
Oui, il y a des statistiques officielles, il y a les chiffres qui sont donnés par les associations féministes,
ouais.
Il y a celles qui ne prennent que les meurtres par conjoint ou ex-conjoint, il y a celles qui prennent en compte les meurtres commis par le père, l'oncle, le cousin, le frère, le fils, hein, évidemment. Ouais. Donc, à titre de comparaison, donc là on est à 96. L'année dernière, au 1er septembre, nous étions à 87.
Oui.
Et l'année d'avant, au 3 septembre, nous étions à 90. Donc, ça ne va pas dans le bon sens.
Non.
Il n'y a rien qui s'améliore à ce niveau-là. C'est une catastrophe. Une catastrophe. Eh bien, nous allons écouter un autre morceau de musique, Alex.
Oui, je vous ai préparé un morceau de Clara Luciani. Cœur.
C'est parti.
T'es comme un voile qui s'accroche à tous les clous. Tu t'effiloches, tu t'abîmes à tous les coups. Go.
cigarette. Chaque fois qu'on la frappe, il y pousse une violette. On te fait du mal. Je veux pas qu'on te fasse du mal. L'amour ne cogne que le cœur et ne laisse jamais personne. Te faire croire au contraire, l'amour ne cogne que le cœur. L'amour ne cogne que le cœur. L'amour n'a jamais tué personne. Et les seuls coups que l'amour pardonne sont les coups du foudre. L'amour n'a jamais tué personne. Et les seuls coups que l'amour pardonne sont les coups du foudre. L'amour ne cogne que le cœur.
Alors nous venons d'entendre le morceau Cœur, comme nous l'a dit Alex, de Clara Luciani, juste pour vous dire que dans cette chanson, elle s'adresse à une femme qui est battue. D'ailleurs, le mot coup revient régulièrement. Et quand elle dit l'amour n'a jamais tué personne, c'est pour dire que quand on tue, eh bien, ça n'est pas de l'amour, en fait. C'est de la violence, c'est un meurtre, bien sûr, mais ça n'est pas de l'amour, ça n'est pas, comme on l'a longtemps entendu dire, des crimes passionnels. C'est pas une histoire de passion. Voilà. Je vais donner la parole à notre toute nouvelle chroniqueuse que je vous ai présentée, qui s'est présentée tout à l'heure, Annie, pour sa première chronique.
Merci. Alors, je vous propose de débuter cette rubrique justice à l'international avec d'abord des nouvelles accablantes des femmes afghanes. Dans la semaine du 19 au 25 août, les talibans, via leur ministère pour la promotion de la vertu et la répression du vice, qui a remplacé celui des affaires féminines peu de temps après leur prise de pouvoir, ont promulgué une loi de 114 pages, composée de 35 articles, imposant de nouvelles règles liberticides à l'égard des Afghanes. Dans le but d'accentuer la stricte interprétation de la charia, selon les talibans et leurs chefs spirituels, ces règles interdisent notamment aux femmes de s'exprimer en public, c'est-à-dire qu'elles n'ont plus le droit de parler, de chanter ou réciter de la poésie, de lire à voix haute en dehors de chez elles et ne doivent même pas être entendues de l'extérieur lorsqu'elles le font à l'intérieur de leur maison. Elles n'ont plus le droit de regarder les hommes avec qui elles n'ont pas de lien par le sang ou le mariage, de se maquiller ni de se parfumer et doivent systématiquement être accompagnées d'un chaperon. L'application de cette loi est laissée à l'appréciation des inspecteurs des mœurs et donc de leur subjectivité. Les contours des infractions étant aussi nébuleux que les sanctions prévues, il est particulièrement inquiétant d'imaginer comment seront traitées les éventuelles contrevenantes, ou plutôt jugées contrevenantes. En février, le quotidien afghan ATM Media publiait une enquête glaçante sur la situation des femmes incarcérées dans les prisons talibanes de trois provinces du Nord-Est. Cette enquête faisait état de tortures systématiques, d'abus sexuels et de viols récurrents subis suite à des arrestations totalement arbitraires. Et est-il nécessaire de rappeler également que les lapidations sont toujours d'actualité en Afghanistan? Les talibans semblent vouloir effacer les femmes jusqu'à leur voix. Réduites au silence et condamnées à se cacher dans leur maison, les Afghanes disparaissent dans l'indifférence. Récemment, au micro de Radio France, Amida Aman, fondatrice de Radio Begum et Begum TV, ce sont des canaux qui permettent encore aux femmes d'avoir accès à quelques informations et programmes éducatifs. Donc Amida Aman évoquait l'extrême timidité des interventions des Nations Unies. Pour elle, le sort des femmes afghanes ne préoccupe personne. Elle serait sacrifiée au profit de considérations géopolitiques pour une stabilité illusoire. Elle reprenait également les mots d'une de ses correspondantes afghanes à propos des rares libertés encore à la portée des femmes de son pays. Elle disait « Il ne nous reste que le droit de respirer, et encore, ils vont peut-être bientôt nous le prendre ». Et ces derniers jours, malgré les risques encourus et avec détermination, des Afghanes ont publié des vidéos sur les réseaux sociaux dans lesquelles on peut les entendre chanter.
Ça, c'est très courageux.
Oui, vraiment très courageux. Donc, pour terminer la chronique, quelques autres informations en justice pendant l'été. En bref, en juillet, deux rugbymen français, Hugo Oradou et Oscar Jégou, ont été inculpés pour viol aggravé en Réunion, en Argentine. Leurs avocats ont demandé un non-lieu, alors que la plaignante a tenté de mettre fin à ses jours. La date d'examen de cette demande de non-lieu n'est pas encore fixée, mais hier, les deux rugbymen ont été autorisés à rentrer en France, sous réserve qu'ils se présentent au consulat d'Argentine s'ils sont convoqués.
Bien sûr.
En France, maintenant, le ministère de la Justice a lancé, fin juin, un appel à projet pour valoriser les applications de prévention et de lutte contre les violences sexistes, sexuelles et au sein du couple. Les candidatures sont à déposer avant le 20 septembre. Cet appel s'adresse notamment aux associations, aux entreprises et aux établissements publics industriels et commerciaux qui seraient porteurs d'une telle application. Toutes les modalités sont à retrouver sur le site du ministère, donc justice.gouv.fr. Enfin, en Vendée, l'audience des 8 jeunes prévenus dans l'affaire de la mise en scène macabre dégradant la place Simone Veil le 8 mars dernier aurait dû avoir lieu le 29 août. Mais en raison de questions administratives et à la demande de l'avocat d'une des prévenues, cette audience est reportée au 19 décembre à 16h au tribunal de La Roche-sur-Yon.
Une des prévenues, donc il y a au moins une femme dans ce groupe.
Oui, ils sont 8 et il y a 3 femmes, il me semble.
Ce sont des jeunes hein, du mouvement Action Française, sauf erreur,
oui,
hein, c'est ça. Et lorsque on parle régulièrement dans cette émission de l'Afghanistan, malheureusement. Ce que tu viens de nous dire, c'est glaçant. Hein, c'est vraiment. On parlait déjà de la volonté d'invisibiliser les femmes, ne serait-ce que par la tenue déjà. Ouais. Mais maintenant, c'est une non-existence. Elles vont servir quoi, juste de poule pour la reproduction, en fait.
C'est ouais. Ça. Elles sont réduites à ça.
C'est vraiment. Donc pour les prévenus là, la place Simone Veil. Donc c'était quand ça
c'était le 29 août.
C'était le 29 août et c'était ils avaient mis de la peinture rouge pour faire.
Ah oui, non,
du sens,
leur action. Non, à eux, c'était le 8 mars.
C'était en mars. Oui, c'était le 8 mars.
C'était au moment de la constitutionnalisation de l'IVG.
C'est ça. Et puis 8 mars, journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Donc tout un symbole. Hein, voilà. Ça fait plusieurs symboles. Et ils avaient mis aussi un baigneur, hein, des poupées, en fait.
Au niveau de la place Simone Veil, il y a le buste de Simone Veil, et en dessous, il y a un bassin. Et donc, ils avaient mis des colorants de couleur rouge, en fait, pour rappeler du sang, dans le bassin, et ils avaient disposé des baigneurs.
Voilà. Donc, pour dénoncer l'avortement, et pour dire que l'avortement est un meurtre.
Voilà.
C'était leur message.
C'est ça, il y avait des affiches aussi.
Et donc, on sait qui c'est, ça arrive... Pas chez nous, en Vendée, à La Roche-sur-Yon, et pas que. C'est pas toujours loin, quoi. Voilà, on a toujours l'impression qu'il y a des choses qui se passent loin. Alors, effectivement, l'Afghanistan, c'est loin. Et comme tu le disais, finalement, qui lutte pour les femmes afghanes, à part elles-mêmes ?
Voilà,
quelques porte-paroles, en tout cas au niveau des Nations Unies, effectivement, comme il y a des relations économiques.
On s'en fout.
Personne ne bouge. Voilà.
Ça, c'est très clair. Hein.
C'est le fric avant tout.
Exactement. Merci Annie. On va réécouter un morceau de musique.
Oui, eux seuls, corps.
Oui.
Sur le sol, je me fais du mal depuis des années. La main sur les yeux, a envie de la retirer. Y'a pas de place pour les faibles. Y'a pas de place pour les regrets. Le cœur sur le sol. Relève-toi, faut pas déconner. Je sais bruit dans ma tête et j'aimerais que ça cesse, mais en vain. J'ouvre un peu les yeux, des couleurs, des photos me reviennent. Tous ces bruits dans ma tête, faut que ça cesse. J'ai perdu la tête, où est le chemin de ma maison? Quoi qu'il advienne, je retrouverai les clés de la raison. J'ai perdu la tête, où est le chemin de ma maison? Quoi qu'il advienne, quoi qu'il advienne. Le regard des gens, j'en ai que faire. Qui sont-ils pour me juger? Pardon à mon père, insolente je l'étais. Dans les yeux de mon frère, ouais, des claques qui s'en ébouffaient. Sur les joues de ma mère, des rivières se sont écoulées. Et j'aimerais que ça cesse, mais en vain. J'ouvre un peu les yeux, des colères, des photos me reviennent. Tous ces bruits dans ma tête, faut que ça cesse. J'ai perdu la tête, où est le chemin de ma maison? Quoi qu'il advienne, je retrouverai les clés de la raison. J'ai perdu la tête, où chemin de ma maison. Quoi qu'il advienne, je retrouverai les clés de la raison. Je retrouverai les clés de la raison. J'ai perdu la tête, ouais. Quoi qu'il advienne, je retrouverai les clés de la raison. Et...
Venons d'écouter, donc là, comme l'a dit Alex, la chanson Corps. Je pense que, déjà là en français, donc tout le monde a bien compris, le titre est très parlant. La chanteuse Isulde, qui, pour ceux qui ne la connaissent pas, a fait la cérémonie de clôture des JO, quoi. Et évidemment, elle parle du rapport à son corps, ou plutôt du rapport des autres à son corps, à elle, qui n'est pas un corps qui rentre dans les critères de beauté de notre société, et à quel point c'est difficile. Et en même temps, elle ne permet pas aux autres de la juger. C'est une très belle chanson. Revenons à toi, Nello. Tout à l'heure, tu as prononcé le mot « émotion ». Et j'aimerais bien que tu nous en dises un petit peu plus sur le lien entre ce que tu fais et les émotions, l'émotion. Parce que c'est comment, très fort comme mot.
Ouais, mais comment décrire ça? Je ne sais pas. C'est des flashs qui arrivent par moment, soit à l'écoute d'une émission, d'un morceau de musique ou lire un bouquin. Enfin, il y a un moment que je ne l'ai plus parce que je n'ai plus trop le temps, mais... Ça se déclenche comme ça, et ce flash me fait venir directement l'idée d'une sculpture.
Ok, et par rapport...
Et elles naissent toutes comme ça, mes sculptures. S'il n'y a pas ce petit déclic, je ne peux pas créer.
Donc ça vient comme ça, un peu comme les romanciers, par exemple, qui, à un moment, subitement, enfin certains, je ne sais pas, sont pris d'une envie de décrire, puis parfois ouais. Il ne se passe rien. Enfin, ça doit être le cas de nombreux artistes, ouais. D'ailleurs, hein, de façon générale.
C'est souvent comme ça, oui.
C'est comme ça que tu
et
fonctionnes.
Et après, on a des blancs pendant 17 ans.
Comme le syndrome de la page blanche pour l'écrivain.
Oui. Quoique moi, je ne peux pas dire ça, je ne connais pas.
Ouais. Mais je pense que ça a l'air de... Ça me paraît assez proche comme façon dont on parle en image, ça me paraît assez proche. Et effectivement, je pense que c'est, comme je le disais, sûrement aussi le cas des gens qui écrivent des chansons, par exemple, ou qui composent de la musique, qui font des spectacles.
Si on crée quelque chose qui n'a pas de vie, pas d'émotion, je vois pas l'intérêt.
Alors, il y a ton émotion, et puis celle que tu fais passer.
Que je fais passer dedans, oui.
Et celle que ressentent les gens.
Oui, aussi.
Et donc, ils t'en parlent, les gens?
Oui, il y a beaucoup de bons retours. Des fois, c'est pas terrible du tout, mais bon, c'est comme ça, quoi. Parce que je peux toucher un peu à tout, quoi. Il y a quelques années, je sais plus, il y avait eu un gros truc aussi dans les... je sais pas si en Afghanistan ou je sais plus ce qu'il y avait eu, quoi. Donc, j'ai créé une sculpture monumentale, d'accord, une de plus. Je pense qu'elle faisait 2,92 m, celle-là, je ne sais plus exactement les dimensions. Donc il y avait la croix des chrétiens, à droite il y avait le croissant des musulmans, et puis l'étoile de David.
Mm-hmm, message fort.
Tout ça c'était monumental, c'était, on la voyait à 300 mètres, hein, avec un texte que je ne me rappelle plus, il faudrait que je le relise, qu'en gros si l'être humain était moins con, il y aurait moins de guerre à cause de la religion.
Évidemment.
Et ça a été perçu partout, sauf les musulmans.
Ah oui.
Ouais. Ça a foutu un petit peu. J'avais exposé à l'époque, c'était au Vinci à Tours, un grand lieu d'exposition. Et les seuls qu'on pourrait accepter, c'est les musulmans.
Et est-ce que tu as pu discuter avec eux pour trop savoir
fermé.
Trop fermé.
Il n'y a que leur Dieu qui existe.
D'accord. Donc pas de dialogue possible sur le sujet.
C'était fermé.
D'accord. Bon, on espère que ce n'est pas le cas de tous les musulmans. En tout cas, c'est non, ceux que tu as rencontrés.
Il y en a eu d'autres qui sont tout à fait pour. Hein. J'en connais plein, heureusement. Hein.
Heureusement, oui.
Mais il y en a, c'est leur Dieu, on n'y touche pas, c'est sacré. Le reste n'existe pas.
Ouais, on va appeler ça le blasphème, hein.
Ouais.
Comme il y en a qui ont parlé de blasphème à propos de l'intervention, enfin du morceau chanté par, notamment le morceau chanté par Philippe Catherine, tout nu, oui. Voilà, parce qu'ils imaginaient que ça représentait la scène avec un C, hein, donc c'était un symbole religieux chrétien, alors qu'en fait c'était Dionysos, les dieux grecs, et évidemment donc le lien, la Grèce, les Jeux Olympiques, voilà, et ce petit bonhomme bleu, enfin pas si petit, qui d'ailleurs désormais est célèbre partout, notamment au Japon, je crois, où ils ont fait pas mal d'objets, son effigie, des jouets ou des choses
un
comme ça.
Un dessert aussi.
Oui,
donc c'est... oui, il est tout bleu, il est tout nu, et voilà.
Ah ben voilà.
Donc, c'est... Ben, bravo Philippe Catherine. donc, Je voulais te demander aussi, voilà, quand tu parles d'émotions, tu transmets une émotion, elle est reçue, tu nous as donné un exemple, mais par rapport à la sculpture, la monumentale sculpture que tu es en train de préparer actuellement, qu'est-ce que tu peux dire si je te dis émotion ?
Qu'est-ce que je peux dire ? Je ne sais pas. Il y en a tellement depuis le début. Comment expliquer tout ça ? C'est difficile. Cette sculpture-là, au moment où je l'ai pensée, où je l'ai vue dans ma tête, et au moment où j'ai décidé de la réaliser, il y a eu beaucoup de temps. Donc j'ai commencé à démarrer. Dans ma tête, c'était simple. C'était mouler des visages de femmes. Au départ, je n'avais pas pensé aux femmes violées ni battues. J'étais resté sur la position de ma mère, quoi. Et j'avais du mal à trouver d'autres femmes pour avancer. Donc j'en ai parlé à une amie que je connais. Et elle m'a dit, attends, moi je connais une association, tout, on pourrait t'aider. Et moi je voyais ça très simple. Je faisais mon moule sur le visage de la femme. Je retirais le moule, c'était fini, quoi. C'est beaucoup plus fort que ça, quoi. Toute l'émotion qui en ressort à chaque fois qu'on retire le moule, quoi. Il y a des fois, je ne sais pas où mettre, tellement c'est fort, quoi.
Bon, effectivement, ça l'est. On reviendra là-dessus après un nouveau morceau musical. Hein.
Oui, Stromae, Déclaration. Oui.
Si le courage avait un visage, il aurait le tien. Pas besoin de grand chose, mais de toi j'ai besoin. Je sais pas si je crois en Dieu, mais en toi je crois bien. Et pourquoi serait-il masculin? Pardonne-moi, on n'est pas misogyne, on le devient. Mais faudrait surtout pas que madame porte la culotte. Même si la charge mentale, on sait bien qui la porte. Et si être féministe est devenu à la mode, c'est toujours mieux vu d'être un salaud qu'une salope. T'inquiète pas, ça va aller, faudra bien que ça change. Ça prendra quelques années, vu que ça nous arrange. T'inquiète pas, ça va aller, faudra bien que ça change. Ça prendra quelques années, vu que ça nous arrange. Toujours obligé d'aimer enfanter.
Toujours obligé d'aimer enfanter.
La contraception qui te détruit la santé.
La santé, la santé, la santé.
Endométriose enchantée.
Endométriose.
Je suis mieux payé que toi sans vouloir me vanter.
Me vanter, me vanter.
Mais faudrait surtout pas que madame porte la culotte. Même si la charge mentale, on sait bien qui la porte. Et si être féministe est devenu à la mode, c'est toujours mieux vu d'être un salaud qu'une salope.
T'inquiète pas, ça va aller, faudra bien que ça change.
Faudra bien que ça change.
Ça prendra quelques années, vu que ça nous arrange. T'inquiète pas, ça va aller, faudra bien que ça change. Ça prendra quelques années, vu que ça nous arrange.
T'inquiète pas, ça va aller, faudra bien que ça change. Ça prendra quelques années, vu que ça nous arrange. T'inquiète pas, ça va aller, faudra bien que ça change. Ça prendra quelques années, vu que ça nous arrange.
Graffiti, 19-20h, toi, histoire de femme.
Nous venons donc d'entendre une chanson écrite, chantée, interprétée par un homme qui parle des femmes, qui parle du sexisme, qui parle du féminisme. Vous pourrez, j'invite les auditeurs et les auditrices à réécouter les paroles si vous ne connaissiez pas cette chanson de Stromae. Il y a juste une phrase avec laquelle je ne suis pas d'accord dans cette chanson. C'est quand il dit « même si le féminisme
est
devenu à la mode ». Voilà. Non, ce n'est pas la mode. On en parle peut-être plus, et tant mieux. Mais ce n'est pas la mode. Hein. Moi, je n'ai pas attendu hier pour être féministe et vous non plus. Hein. Donc, c'est la seule phrase. Et puis, quand il dit « t'inquiète pas, ça va aller, ça prendra quelques années parce que ça nous arrange ». Alors, le « nous », c'est les hommes, évidemment. Hein.
Toujours,
donc,
ouais.
Voilà. Alors, on revient à ce que tu nous disais. On parlait d'émotion, Nélo. On parlait d'émotion. Tu nous disais que tu pensais que ça serait simple et puis qu'en fait il y avait beaucoup d'émotions. Est-ce que tu peux, de la part des femmes,
hein, oui,
sur lesquelles tu as fait
le moule,
qu'est-ce que tu as eu comme réaction, par exemple?
Sur ce poste, je peux en parler déjà parce que ça c'est personnel.
Oui, bah, enfin, sans dire
général,
de nom.
Oui, oui, en général, ouais. Bah, beaucoup de pleurs, beaucoup de remerciements. C'est pas évident à décrire tout ça, quoi. Mais des choses hyper, hyper fortes, quoi. Hyper fortes, auxquelles je m'attendais pas du tout.
Ouais.
Je m'étais même pas imaginé ça au moment où je voulais faire cette sculpture-là, quoi.
Ouais.
Et je me suis dit, quand même, il y a du lourd derrière, quoi.
Ouais. Et pourquoi, à ton avis, ce que tu fais sur le visage de ces femmes provoque de telles réactions, de telles émotions, des choses fortes?
Ben, une chose auquel je n'avais pas pensé non plus, c'est qu'au moment... Déjà, c'est très difficile pour ces femmes-là de se laisser enfermer par un masque. Parce qu'elles sont à ma merci, en fin de compte, elles ne peuvent rien faire. Elles sont allongées sur une table, je leur mets du plâtre sous le visage, arrivé à un moment, je mets du plâtre sur les yeux, sur la bouche, et elles peuvent s'exprimer, quoi. Donc c'est assez contraignant quand même.
Ouais.
Et au moment où le processus se fait, ça sèche et tout, je le retire, elles me disent presque toutes, c'est comme si c'était une libération. Alors que moi, jamais, je n'avais pas imaginé ça, quoi. C'est comme si elles renaissaient, quoi.
Ouais. Parce qu'il y a effectivement, comme tu disais, ce côté...
Elles enlèvent un masque qu'elles portaient depuis des années, pour ne pas le montrer, quoi.
Et quand le plâtre durcit,
ouais,
effectivement, comme tu disais, on ne peut pas parler, on ne peut pas voir.
Elles sont figées, elles ne peuvent rien faire.
Ouais, donc, vulnérabilité.
Totale.
Voilà. Confiance.
Totale aussi.
Totale en toi.
Oui.
Même si elles ne te connaissaient pas avant.
Non.
Et quand tu l'enlèves, et la lumière fut, quoi.
Un nouveau monde. Enfin, ouais, presque un nouveau monde, quoi.
Ouais. C'est quelque chose d'extraordinaire là que tu fais.
Ça se décrit pas.
Ouais.
J'ai pas de mots pour ça.
Des larmes?
Beaucoup.
Et des confidences éventuellement parfois?
Aussi, beaucoup. Beaucoup.
Ça déclenche quelque chose.
Ça ouvre le dialogue.
Mm-hmm.
Et ben, je pense que c'est important de les écouter. Puis j'écoute, mais je juge pas, je dis rien. J'écoute tout simplement. Mm.
Et tu ne t'attendais pas donc à ça, c'est ce que tu nous as dit.
Pas du tout.
Donc c'est d'autant plus fort,
ouais,
pour toi.
Ah, c'est une sculpture, je ne sais pas quoi, c'est monumental, quoi. Donc là, il y a la dernière personne que j'ai moulée ce soir, avant de venir là.
Mm-hmm.
Pareil, elle a eu un passé assez difficile. Ça n'a pas été simple. Et puis, au moment de la démouler, bon, il faut attendre réaction, il faut que les émotions passent et tout, quoi. Et puis, elle m'a dit qu'elle a écrit un texte par rapport à tout ça, quoi. Tellement ça a été puissant pour elle, quoi.
Ok, et ce texte, tu l'as lu?
Non, elle va l'écrire.
Ah, elle va l'écrire, pardon.
Ouais.
Ok. Donc, c'est une... Enfin, parmi toutes les sculptures que tu as pu faire, c'est probablement une qui... sera une des plus marquantes. Enfin, après, on ne sait pas ce que tu vas faire par la suite, mais...
Je pense que, même pour moi, ouais, c'est une des plus marquantes. Ouais.
Mmh. Est-ce qu'on peut dire de toi que tu es un artiste engagé?
Oui.
Parce que c'est effectivement ce que tu nous dis depuis tout à l'heure, hein, c'est ce qu'on ressent.
Entièrement. Entièrement.
Voilà. Et tu pourrais te présenter comme tel.
Oui.
Artiste engagé et engagé, alors pour les femmes, là, puisqu'on parle de la sculpture sur laquelle tu travailles actuellement, mais aussi de façon générale sur
la religion,
les discriminations en tout genre.
Tout, quoi. La paix, j'ai créé une sculpture monumentale aussi pour la paix. En 2003, j'ai fait une sculpture aussi sur le thème de l'eau, parce qu'en 2003, on n'en parlait pas beaucoup, mais maintenant on en parle, que l'eau devient
rare.
De l'or. Ça vient de l'or dans certains pays, quoi.
Oui, et ça ne va pas s'arranger.
Et ça ne va pas s'arranger, quoi. Tout le monde se foutait de moi en 2003, mais maintenant...
Ah oui.
Voilà, quoi. On y arrive.
Oui, tu étais précurseur.
Je ne sais pas. Je ne sais pas d'où ça vient.
Et de ton, comme tu le disais, de ton ressenti, de tes émotions.
Ouais.
De...
Tout le vécu qu'il y a derrière, quoi.
Tout vient de tes tripes, en fait.
Ouais.
Tes tripes et ton cœur, je ne sais pas.
Comment... Bah, tout le cœur, oui, sûrement, oui.
Ouais.
S'il n'y a pas ça, il n'y a pas de vie, quoi. Ça ne vaut pas le coup, quoi.
Alors, on va refaire une pause musicale. Aujourd'hui, contrairement à avant les vacances, on fait beaucoup, on passe pas mal de musique. On ne sait pas si on continuera comme ça, mais nouvelle rentrée, on tente de nouvelles choses. Et donc, Alexandra ?
Alors, à suivre, nous allons écouter Shervin Ijapour pour Bareil.
Donc, un mot pour les femmes afghanes, les femmes iraniennes. Pardon.
برای توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کودک زبال گرد و آرزوهاش، برای این اقتصاد دستوری، برای این هوای آلوده، برای ولیعصر و درختهای فرسوده، برای پیروز و احتمال انقراضش، برای سگهای بیگناه ممنوعه، برای گریه های بیوقفه، برای تصویر تکرار این لحظه، برای چهره ای که میخنده، برای دانش آموزا، برای آینده، برای این بهشت اجباری، برای نخبه های زندانی، برای کودکان افغانی، برای این همه برای غیر تکراری، برای این همه شعارهای تو خالی، برای آوار خونه های پوشالی، برای احساس آرامش، برای خورشید پس از شبای طولانی، برای قرصای اعصاب و بیخوابی، برای مرد میهن آبادی، برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن زندگی آزادی، برای آزادی، برای آزادی، برای آزادی.
گرافیتی 19-20 Histoire de femme.
Je ne sais pas si c'est la peine de présenter le morceau que nous venons d'entendre. Il est internationalement connu, c'est devenu un hymne pour les femmes iraniennes, et pas seulement les femmes d'ailleurs. On parlait des femmes afghanes tout à l'heure. Bon, en Iran, c'est pas à ce point-là. Et il y a beaucoup de révoltes aussi, hein, de la part des femmes qui sont censées être voilées, etc. Je redonne la parole à notre chroniqueuse, Annie.
Oui, alors merci. Donc, on va attaquer la deuxième chronique. Alors, ça avait plutôt bien commencé avec une cérémonie d'ouverture axée sur la diversité culturelle, inclusive et ouverte, avec la mise à l'honneur des figures de la lutte pour les droits des femmes, avec la parité homme-femme. Et puis, malgré des performances impressionnantes et une ferveur populaire grisante, le sexisme, lui aussi, s'est manifesté dans une forme olympique. Événement phare de l'été, les Jeux Olympiques ont majoritairement dominé le paysage médiatique des derniers mois. On a pu voir de nombreuses scènes de liesse célébrer de bien belles médailles. Mais on a pu constater aussi tout le chemin qu'il reste à parcourir pour vaincre le sexisme. Par exemple, en rappelant le principe du consentement à ceux que l'exaltation inciterait à prendre les membres du personnel féminin pour des poupées qu'on pourrait embrasser sans leur demander leur avis. Le père de Barbara Matic, championne olympique croate de judo, aurait besoin d'une leçon sur le sujet. Une bénévole des JO a porté plainte contre lui, rapportant qu'il l'avait embrassée de force suite à la victoire de sa fille. Pour vaincre le sexisme, il faudrait aussi que les violeurs ne soient pas autorisés à concourir, tandis que leurs collègues féminines se voient interdites de compétition pour des infractions qui semblent bien dérisoires. Pourtant, Steven Van de Velde, beach volleyeur néerlandais, a bénéficié de la complaisance patriarcale habituelle, puisque, bien qu'ayant été condamné pour viol sur mineur, il a pu poursuivre sa carrière sans encombre et prendre part à la compétition. Oui. En revanche, Shoko Miyata, gymnaste japonaise, voit quant à elle sa carrière sévèrement ralentie, puisqu'elle a été exclue de la compétition pour son abominable crime, avoir fumé et bu avant l'âge de 20 ans. Oh. Autre éconduite des JO pour un crime tout aussi terrible, Ana Carolina Vieira, nageuse brésilienne. Ayant d'abord reçu un avertissement pour une excursion dans Paris avec son petit ami sans l'autorisation de sa délégation, elle avait fait part de son mécontentement. Sa réaction a été jugée trop agressive, elle a donc été finalement exclue de la sélection brésilienne.
On lui a pas dit qu'elle était hystérique, non?
Peut-être que oui, parce que justement je me disais, eh oui, quand tu es une femme, tu te tais ou tu dégages.
C'est ça.
Son petit ami, Gabriel Santos, a quant à lui conservé sa place au sein de l'équipe. Enfin, toujours pour vaincre le sexisme, il faudrait que les masculinistes cessent de se sentir menacés dès qu'une femme est forte et donc leur fait peur. Iman Khelif, boxeuse algérienne, et Lin Yuting, boxeuse taïwanaise, ont malheureusement fait les frais de cette fragilité maladive. Elles sont douées, elles sont fortes, très fortes. Elles doivent être des hommes. Voilà en gros le raisonnement de leurs détracteurs et détractrices. Voici ce qui a alimenté la polémique. Iman Khelif et Lin Yuting ont été disqualifiés par l'Association internationale de boxe, donc abrégée sous l'acronyme IBA, pour les championnats du monde de 2023, tandis que le Comité international olympique, donc le CIO, les a autorisés à participer aux JO de Paris. Alors, quelques mots sur l'IBA. Son président s'appelle Oumar Kremlev. Il s'agit d'un oligarque russe lié au Kremlin. L'IBA est accusée de corruption par le CIO, qui lui reproche notamment son manque de précision et de transparence quant à la source de ses financements. Le CIO a donc retiré sa reconnaissance à l'IBA, ne lui permettant plus d'intervenir dans l'organisation des épreuves olympiques. Parce qu'avant, en fait, l'IBA pouvait participer à l'organisation des épreuves. Et donc maintenant, ils n'ont plus le droit de faire ça parce que, voilà, on n'est pas très sûr. On ne sait pas trop d'où viennent leurs moyens. Donc la disqualification des deux boxeuses, donc de Iman Khelif et de Lin Yuting, par l'IBA, était intervenue suite à des tests génétiques dont les modalités et les résultats n'ont jamais été détaillés par l'IBA. Et ces tests ont été jugés irrecevables par le CIO, qui apporte un soutien sans faille aux deux championnes olympiques. Et je précise aussi que les deux boxeuses avaient été autorisées à participer au championnat du monde de 2022, par contre, et qui était organisé par l'IBA.
Oui. Voilà.
D'accord.
Voilà. Et donc, peut-être que les masculinistes fragiles devraient laisser les athlètes poursuivre leurs exploits et se contenter, eux, des parties de Quidditch avec leur protectrice TERF adorée. Le chemin paraît encore vraiment très long pour vaincre le sexisme, surtout lorsque l'on voit les recrues de chaînes comme BFM TV ou Europe 1. Mais ne baissons pas les bras, restons fortes face au patriarcat.
Ouais, les masculinistes, ouais.
Alors, il y a le CIO aussi qui avait demandé aux cadreurs de cadrer les femmes comme ils cadrent les hommes aussi pour éviter les
gros plans sur les
fesses.
Ouais,
ou ailleurs quoi.
Ouais.
Ah bon?
Oui, parce que c'est effectivement un constat qui a été fait.
Oui.
Les athlètes féminines n'étaient pas filmées sous les mêmes angles
que les hommes.
Les hommes, notamment pour le beach volley.
Parce qu'il y a les tenues des beach volleyeuses aussi, dont on pourrait parler.
Alors qu'elles l'ont choisi, elles font ce qu'elles veulent, tant que ça ne leur est pas imposé, évidemment.
Voilà, c'est ça. Et justement, on leur imposait des tenues qui ne leur convenaient pas. Et elles ont, je crois qu'elles ont réussi quand même à obtenir le droit de
porter un short.
Au lieu de ce qui leur était imposé avant.
C'était quoi avant?
C'était
un slip de bain,
un bikini. Un bikini. Voilà, et certaines l'ont porté, mais là pour le coup c'était leur choix. Ouais. Et là les caméras, gros plan sur les fesses.
Ah d'accord.
Voilà.
J'avais pas compris comme ça.
C'est catastrophique. C'est. Eh bien, merci Annie. Encore un petit morceau de musique.
Alors, avant de vous mettre un petit morceau, je vais vous faire un petit agenda. Il y a deux marches de fierté qui sont prévues ce mois-ci. Donc, la première, c'est samedi 14 septembre à Clisson. C'est l'association Qui nous aime nous suive qui organise ça. Donc, c'est sa deuxième marche de fierté. Le mot d'ordre, c'est brouette et paillettes. Donc, si vous avez une brouette et des paillettes, allez faire un petit tour. C'est à partir de 15h30. Sur le parvis de la gare de Clisson. Et la deuxième marche de fierté, ça sera le samedi 28 septembre à La Roche-sur-Yon. Donc c'est le centre LGBT qui l'organise. Et ça sera le début 14h30, 13h30 à la maison de quartier de la Vallée Verte. Le mot d'ordre, ça sera plus d'inclusion.
Évidemment.
Donc, c'est pourquoi je vous ai choisi un morceau des Bronski Beats. Donc, Small Town Boy.
Thank you.
Alex. Super cette chanson, pourquoi tu l'as choisie précisément?
Précisément, c'est parce que cette année, c'est les 40 ans de ce morceau, de la naissance même des Pusky Beats.
C'était quelle année?
1984.
Donc, j'étais adolescente. Dis donc, qui a dit ces vieux Nello quand même. Bah, tu peux pas la remettre encore une fois, parce qu'on était bien là dans le studio à danser.
Oui.
Hein, on peut faire boîte de nuit aussi
une prochaine
en même temps.
Fois.
Hein,
ah ouais, bah, parce que... Vous venez faire un tour Merge des Fiertés, vous l'entendrez certainement.
Eh ben voilà, c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée. Eh bien, nous allons reprendre avec Nello, notre invité, c'est le sculpteur vendéen, un homme, j'insiste tout de même, dans une émission qui s'appelle Histoire de femmes, mais où les invités peuvent être à la fois des hommes ou des femmes, sans aucun problème. D'ailleurs, tu n'es pas le premier homme à participer à notre émission. Alors, moi, je voulais te demander... Donc, tu as parlé des réactions des femmes dont tu avais fait le moule du visage. Est-ce que si je te dis thérapeutique, ça te parle?
Non.
Non?
Non.
Pourquoi?
Je ne sais pas ce que c'est.
Est-ce que tu... Enfin, je pense que tu l'as dit tout à l'heure, en fait, ça leur a fait du bien à ces
femmes. Du bien, ouais.
Donc il y a un côté thérapeutique, ça, un côté soin, enfin, je m'entends, c'est un soin médical, mais...
Ouais, il y a quelque chose, mais je ne suis pas thérapeute.
Non, bien sûr, ce n'est pas ce que je voulais dire, mais ton action...
C'est... Ouais, je comprends ce que tu veux dire, ouais. Il y a quelque chose, ouais.
C'est assez quelque chose. Parce que tu parlais de cette espèce de délivrance, en fait.
Ouais.
Quand tu enlèves le moule, en fait.
Le moule, ouais. Hein.
Donc c'est ça que je veux dire par... C'est qu'il y avait un besoin, en fait, quelque part, peut-être.
Ben, il y en a qui me disent, oui, que ça leur fait tirer un trait sous le passé. Ouais. Et elles s'ouvrent vers un nouvel avenir, quoi.
Ouais. Donc ça, c'est... Ben, c'est quand même pas rien, hein.
Ben, c'est pas rien, non.
C'est... Alors, est-ce que je peux... Peut-être pas, je sais pas, me permettre de parler de ma... propre expérience.
Oui, pas de souci.
Puisqu'en fait, si j'ai invité Nello ce soir, hein, c'est parce qu'il m'a contacté pour participer à cette œuvre qu'il est en train de réaliser, dont il vous parle depuis tout à l'heure. Donc, j'ai eu ce masque de plâtre sur le visage. La seule chose à laquelle j'ai pensé avant que tu arrives, c'est j'espère qu'il n'y aura pas du plâtre partout.
Et c'était le cas.
Non, pas spécialement. Et je ne te connaissais pas. On se connaît un peu via les réseaux, tout ça. Mais on s'était, je ne crois pas, déjà rencontrés ou peut-être croisés une ou deux fois. Mais je ne crois qu'on s'est... Enfin, voilà, on ne se connaissait pas. Donc, je te fais rentrer chez moi. Je m'allonge. Tu me mets ces bandelettes humides. Puisque c'est du plâtre sur le visage,
oui.
Jusqu'à ce que tu recouvres la bouche et les yeux.
Et les yeux, oui.
Et que le masque durcisse.
Oui.
Et moi, j'ai ressenti ce que tu disais tout à l'heure. Quand on est immobile comme ça, on est effectivement vulnérable. Je suis soit chez moi, mais je ne vois rien. Je ne te connais pas. Il y a un moment de...
D'emprisonnement.
Voilà, je cherchais le terme. Alors évidemment, ça c'est mon expérience à moi, mais ça a l'air d'être assez semblable chez de nombreuses femmes. Hein.
C'est souvent ça, oui.
Et quand tu... Donc le temps que ça durcit, je me souviens pas.
5-10 minutes.
Voilà. Et quand tu l'enlèves, hein, moi j'ai eu l'impression d'avoir un flash lumineux. C'est très fort. Hein. Et j'ai été très émue. Comme tu as pu le constater, je ne vais pas aller plus loin dans mon expérience, mais voilà, je l'ai vécu et c'est pour ça que je me suis dit c'est vraiment important, c'est formidable ce qu'il fait et il faut en parler. Pas seulement à cause de ce que j'ai vécu, mais aussi bien sûr de ce que ça va symboliser une fois que ça sera terminé, quoi. Alors concrètement, je suppose que tu as choisi le plâtre parce que tu ne pouvais pas faire des moulages autrement.
C'est que c'est pour du naturel. Il existe des latex, des choses incroyables pour faire ça, plus précises que le plâtre. Mais non, le plâtre, c'est le mieux.
Et les masques en plâtre, donc ils sont blancs.
Ils sont blancs.
Qu'est-ce que tu vas... tu vas les
le moule
peindre, il est blanc. Le moule, il sert à quoi?
Le moule, il va juste me servir à tirer la pièce, à tirer le visage. C'est un négatif de ce que je vais sortir. Donc après, je vais sortir le visage de mon moule. Et donc là, au départ, on s'était dit, moi et mon amie Sophie Barraud, là, qu'on allait donner le teint à chaque visage pour que ça soit assez près de la réalité. On avance dans le temps, on se dit que la flamme elle aura déjà deux, trois couleurs. Au départ, j'avais hésité pour les visages en les mettant tous blancs nacrés, sauf trois. Et donc on ne sait plus, on laisse faire les choses et on verra au dernier moment. Quoi.
Pourquoi sauf trois?
Sauf trois parce qu'il y en a deux qui sont décédés sous les coups de leur mari ou de leur conjoint, je ne sais pas trop. Je ne sais pas s'ils étaient mariés, mais tués par leur conjoint. Et la troisième, c'est ma mère.
D'accord. Okay.
Donc ces trois-là...
Donc un symbole supplémentaire avec la couleur.
Oui. Et c'est... J'avance c'est des surprises en surprise, on avance sur ces pièces parce que là j'avais une femme qui m'avait énormément touché aussi, elle était prête à donner son visage pour la sculpture. Au dernier moment, elle s'est retirée parce que son mari est intolérant à toutes ces choses-là. Oh, je me suis dit, ça m'a, comment qu'on est fendu le cœur, quoi. Ça m'a, j'étais pendant une journée, je tournais en rond, j'ai dit non, je peux pas, faut qu'elle soit là, quoi, c'est important, quoi. Et j'ai fini par réfléchir, j'ai renvoyé un message, j'ai dit, bah écoute, je donne pas son prénom, parce qu'elle est connue dans la région. Elle dit, écoute, c'est pas grave, elle dit, j'ai trouvé une solution. Elle dit, tu m'envoies une de tes bagues, donc là, elle va se reconnaître. Et comme il y a des mains aussi dans la sculpture, je te mettrai une de tes bagues sur la sculpture. Ah bah non, si jamais elle reconnaît, ou je sais plus ce qu'elle m'avait dit, quoi, mais c'était non et non. Elle a
c'est
trop
terrible.
Peur.
La peur.
Ouais, la peur.
Elle avait envie, mais elle avait peur.
Donc j'ai ressenti que de la peur. Alors ça m'a encore... comment on va dire, c'est frustrant, quoi, de ne pas pouvoir y donner quelque chose qui est pourtant simple, quoi. Alors c'est pas grave. Elle aura comme une bague... Il n'y aura qu'une bague sur une des mains, mais elle aura l'aspect d'un barbelé avec deux pics et elle sera rouge vif.
Waouh, ok.
Tellement j'ai envie que ça...
Bien sûr, que ça pète, quoi.
Ça marque, quoi.
Ouais,
ça,
voilà. Ouais. Et puis pour elle aussi.
Ouais, elle fera partie de la sculpture.
Voilà. Et le mari qui ne veut pas, non mais franchement, dans quel monde
donc,
on vit...
Elle était pas au courant, donc c'est écoute l'émission, bah, écoute, c'est comme ça.
Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaiterais ajouter par rapport à ton travail, la sculpture du moment?
La sculpture du moment...
Bah, beaucoup de choses ont été dites, mais peut-être qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, qu'on aurait oublié, que tu souhaiterais ajouter ou pas, hein, il n'y a pas d'obligation.
Non, pour l'instant, je ne vois pas trop, là, ouais.
D'accord. En tout cas, moi, je suis ravie. Nous sommes ravis de t'avoir parmi nous. Je crois qu'on est tous convaincus de l'utilité, de la beauté, de la force de ce que tu es en train de préparer. Et waouh, quoi, j'ai rien d'autre à dire. C'est très fort ce que tu as pu nous dire. Tu nous as parlé d'un livre, hein, Camille Claudel.
Oui.
Pourquoi?
Une grande femme.
Et puis des points communs avec elle?
Aussi.
Donc une femme?
Une femme sculptrice. Qui aura pu. Enfin, à mon avis, je pense qu'elle aura pu aller très loin, aussi loin qu'au Rodin, quoi. Mais qui a été anéantie par. Un amour jaloux.
Ouais.
Jaloux, la jalousie, la. J'arrive pas à comprendre, quoi. Deux artistes qui n'ont pas réussi à se convaincre, à s'aider, quoi.
C'est vrai que c'est... Bah, c'est une femme.
C'est une femme, oui.
Voilà. Et puis en plus, à une époque encore plus difficile.
Plus difficile, quoi.
Aujourd'hui, même si on parlait du Moyen-Âge tout à l'heure. voilà.
Donc, ouais, elle m'a beaucoup touché, Camille, ouais.
Merci.
Merci à vous.
Nous avons accueilli entre-temps dans le studio Valérie. Bonsoir. Hein.
Bonsoir.
Donc Valérie du collectif Nous Toutes 85,
Bonsoir. Qui vient faire, bonsoir, bienvenue, et qui vient nous faire sa chronique, enfin ça, c'est pas toujours toi, hein, un moment de lecture féministe que tu as choisi.
Tout à fait. Donc je vais lire un extrait du livre « Je suis votre pire cauchemar » de Kiémis, qui est une blogueuse, autrice, militante afro-féministe française, originaire du Cameroun, et qui lutte contre le sexisme, le racisme et la grossophobie. Donc là, ce livre, il parle essentiellement de grossophobie. Et ce qui est très positif dans ce livre, c'est qu'elle le termine sur une utopie. Donc j'ai choisi un extrait de cette utopie.
Et on peut faire un lien, tu parles de grossophobie, on a écouté tout à l'heure la chanson « Corps » d'Iseult, voilà.
Ah bah voilà.
Donc c'est tout à
parfait.
Fait lié.
Mon rêve, je les entends presque, les soupirs, les bips catastrophés, les bips qui crient la perte, les bips qui annoncent le rouge, les bips qui annoncent le crack. Je les entends presque. Bip, bip, rouge, rouge. Les actions en bourse qui chutent inexorablement. Bip, bip, c'est le crack. Je les entends presque, les annonces à la radio. Weight Watchers qui met la clé sous la porte. Puis, comme j'aime, une compagnie de produits minceurs, puis deux compagnies, puis trois compagnies. La première entreprise qui ferme fait les gros titres. La plus grande boîte de produits minceurs dépose le bilan. Les femmes ne croient plus dans les régimes. Les panels se succèdent, les produits sont retirés des rayons des supermarchés. La première fois, ça fait toujours mal. Et puis on s'habitue. On s'habitue à voir ses concurrentes mettre la clé sous la porte aussi. On s'habitue à ne plus lire de spécial régime dans les feuilles de choux. On s'habitue à ne plus voir les avant-après à la télé. Les publicités qui disparaissent des écrans. Plus de fenêtres pop-up sur la recette miracle pour perdre 20 kilos en 12 jours, ni le secret incroyable pour avoir l'air d'avoir 20 ans alors qu'on en a 80. Bloquées, elles disparaissent. Elles deviennent un vestige du passé. Disparues aussi les pages des magazines qui se moquent de la moindre parcelle de peau d'orange, de la moindre célébrité surfriquée. Disparues, c'est l'heure qui font croire aux gens que si tu les détestes, elles, tu te détesteras moins toi. Je les vois presque, toutes ces balances et ces machines anticellulite qui s'accumulent dans les poubelles des immeubles. Elles débordent presque, il n'y a que ça. Je les vois presque, leur sourire, le sourire de ces femmes qui les jettent. Je le vois presque, ce sourire magique, ce sourire fou, ce sourire qui gueule. Je m'en fous de mon poids, je m'en fous de faire un 34 ou un 52, je m'en fous de grossir, je m'en fous de maigrir, je m'en fous. Je les vois presque, les chiffres qui disparaissent des étiquettes. Les étiquettes qui n'ont plus de sens, sans nombre, plus besoin de classer. Tu rentres, tu prends un collant, une culotte, une robe, sans te poser de questions, parce que quelle que soit ta morphologie, tu sais qu'il y aura ta taille. En fait, tu ne te trompes pas parce que tu n'as pas besoin de tellement de vêtements que ça. Tu n'as plus besoin de nourrir voracement ton armoire de tissus parce que tu cours après la robe parfaite, le sac parfait, la veste parfaite, qui te permet de te sentir éphémèrement différente. Plus besoin non plus besoin, parce que je ne me déteste plus d'être imparfaite. Je ne me déteste plus de ne pas être autre. Je ne me déteste plus de ne pas avoir le corps de l'élite. Toi non plus d'ailleurs, elle non plus d'ailleurs. Dans ce monde utopique, personne n'a peur de manquer. Alors je n'ai plus à me haïr de ne pas ressembler à d'autres, car cette différence ne m'entrave pas dans ma vie quotidienne. Je les sens presque, les coussins confortables sur lesquels je suis assise, habituée au confort. Un mobilier convenable pour mes fesses taille 52. Un mobilier adapté à toutes les morphologies. Un mobilier qui n'est pas anti-SDF, ni anti-personnes handicapées, ni anti-grosses. Le mobilier urbain m'accueille et ne me force pas à vouloir me réduire. Je la sens presque l'odeur d'été qui arrive, la joie inaltérée à l'idée d'offrir mon corps au soleil, la légèreté de mon corps dans l'eau qui embrasse sans discuter tous les centimètres cubes de ma peau et de mon être. Et je m'abandonne au soleil, et je m'abandonne à l'eau. Je m'y vois presque sur cette plage immense face à l'immensité saphir. Toutes ces peurs lourdes sur mon corps et pieds ont cessé de m'entraver. Je ne suis plus que joie en retrouvant l'océan Atlantique. La honte est obsolète, elle n'a plus de sens. Pas plus que les expressions bikini body ou summer body. Summer body, mais l'été a toujours été prêt à accueillir nos corps, nos gras et nos imperfections, pas vrai?
Mais ça nous laisse sans voix. C'est tellement vrai. Enfin, je ne mettais pas en doute, évidemment.
mais l'entendre et à travers ce très bel extrait. Donc tu nous rappelles, c'est un extrait pour nos auditeurs et nos auditrices.
Donc c'est un livre qui est sorti en juin 2024, hein, donc qui est très récent, et qui s'appelle « Je suis votre pire cauchemar », donc qui traite essentiellement de la grossophobie et des diktats faits aux femmes, évidemment, et donc de Kiye Miss, qui est donc une militante afroféministe, voilà, blogueuse et poétesse aussi, hein, elle a aussi écrit des recueils de poèmes, et qui s'insurge ou qui milite essentiellement donc contre le racisme, puisqu'elle est d'origine camerounaise, contre le racisme, le sexisme et donc bah là, la grossophobie.
Grossophobie qui finalement est un terme relativement récent.
C'est vrai.
Le phénomène n'est pas récent.
Non.
Mais le terme est relativement récent et c'est une bonne chose de nommer, de nommer ce problème, ce regard des gens sur ceux qui n'ont pas... le corps, on en parlait tout à l'heure, hein, le corps qui correspond aux standards de beauté. Et mettre un nom dessus, c'est vouloir le dénoncer, en parler, le combattre. Et je trouve que c'est très important, quoi.
C'est... Là, ce qui est vraiment intéressant dans le livre aussi, c'est que Kiemis peut aussi expliquer ce paradoxe qu'il y a dans la grossophobie, c'est-à-dire que c'est quelque chose de tellement ancré que même quand on est soi-même en surpoids ou en souffrance du fait de son obésité, on va quand même détester cette obésité. C'est-à-dire, d'un côté, se battre pour lutter contre la grossophobie et en même temps, soi-même, se battre contre son poids. Donc, il y a vraiment un paradoxe, en fait. Hein, voilà. Et c'est ce qui est expliqué. C'est un livre qui est vraiment... très accessible et je le conseille, voilà.
Très bien, merci Valérie, merci à nous toutes. Eh bien, nous approchons de la fin de notre émission. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter en podcast sur le site de la radio Graffiti, mais aussi sur Spotify et sur Apple Music. Donc, que vous pouvez nous retrouver donc, en direct tous les premiers mercredis du mois de 19h à 20h30. Et je crois que j'ai oublié, moi, de me présenter. Moi, c'est toujours Audrey, donc, comme je l'ai dit, la plus vieille de l'équipe mensuelle.
La plus expérimentée.
Quoi, tu veux dire quelque chose de gentil, mais, Alexandra ?
Mais non, mais t'es pas la seule vieille.
Je suis pas la seule vieille. Ce qui veut quand même dire... Qu'est-ce que t'as dit ?
Ah, rien.
Si, Nélo, j'ai entendu quelque chose.
Je dis 80, c'est pas vieux ?
Non, c'est pas vieux.
C'est jeune.
Bon, alors, je vais être obligée de mettre des photos quand même sur les réseaux pour que les gens essayent de voir quel âge je peux avoir. Et vous aussi, bien entendu. Et... Bien, mais nous vous remercions tous de nous avoir écoutés. Nous espérons que vous serez au rendez-vous le mois prochain. Merci encore à toi, Nélo, d'avoir accepté d'être parmi nous. C'était vraiment un moment très fort.
Merci
Bravo,
pour
Annie.
L'invitation. Oui.
Avec plaisir. Bravo, Sophie. C'était ta première soirée avec nous. Bravo, notre chroniqueuse.
Merci. Vous Annie.
Allez, bravo.
Merci.
Bravo, Annie. Merci, Valérie, d'être venue pour lire.
Avec plaisir.
Et évidemment, Alex.
Oui, bonsoir
merci.
Tout le monde.
Au revoir, bonsoir tout le monde.
Graffiti.
Bon, ben alors, Sophie.
Du coup, je suis une fille.